sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le vice-président, président ad hoc, je ne sais pas comment il faut dire, monsieur le chancelier. Perpétuel, enfin bon, monsieur le chancelier, monsieur le perpétuel, chers confrères, chers consœurs, mesdames, messieurs, vous savez que c'était l'ambassadeur Pierre Morel qui aurait dû nous parler aujourd'hui de la Russie et de l'Ukraine, en fait, du processus dit format de Normandie, et comme justement le sommet se tient aujourd'hui même, et qui doit y être, il n'a pas pu faire la communication. Ceci prouve que le programme de notre académie pose un doigt sur le pouls un peu irrégulier du monde, n'est-ce pas ? On est d'accord. Bon. Alors, j'ai dû donc assez rapidement préparer quelque chose que je vous soumets. Depuis le XIXe siècle, l'Allemagne a longtemps cherché sa voie entre les différentes idéologies et les différents types d'organisations politiques et sociales imaginées depuis le XVIIIe siècle, du libéralisme au communisme, en passant par les différents modèles monarchiques, républicains, autoritaires ou totalitaires. L'Allemagne a été un extraordinaire laboratoire politico-idéologique et, à mon avis, elle est en train de le redevenir. Dans une tradition qui est assez différente de la nôtre, je le dis au passage, mais je ne peux pas m'étendre sur ce point. Des années 1990 jusqu'à la crise qui a commencé en 2008, avec toutes ses conséquences et développements, y compris finalement la crise des réfugiés en 2015, l'Allemagne réunifiée paraissait être devenue un modèle de démocratie libérale, apaisée, ouverte sur les évolutions de la société et sur le monde. L'économie sociale de marché et sa philosophie, l'ordolibéralisme, sur lesquels avait été fondée la RFA, était un modèle envié pour l'Europe, par l'Europe. Seulement ce modèle est remis en cause, la vie politique bouillonne à la fin de l'ère Merkel et est actuellement imprévisible. Un corps en surfusion, là je me tourne vers l'Académie des sciences, un corps en surfusion attend une nouvelle cristallisation réorganisatrice qui peut être soudaine et dépendre de facteurs relativement ténus. Mais cela donne d'autant plus d'importance aux influences extérieures et aux partenariats, dont le nôtre. Contrairement à une idée pessimiste fréquente, c'est le moment de se parler sérieusement entre Paris et Berlin. Sur le plan international, l'Allemagne a longtemps hésité entre sa vocation européenne et l'ambition d'un rôle mondial. À la fin du XXe siècle, elle paraissait avoir trouvé un équilibre positif entre les deux tendances, équilibre systématiquement construit par la République fédérale à partir de 1949. Les principes observés avec constance furent les suivants. D'abord, un multilatéralisme systématique. Ensuite, la construction européenne. Ensuite, la relation avec les États-Unis et l'Alliance Atlantique, dont la République fédérale fut le meilleur élève, sans néanmoins, j'insiste, sans néanmoins hésiter à s'appuyer le cas échéant sur d'autres partenaires comme la France pour faire pression sur les États-Unis quand elle avait l'impression que Washington ne prenait pas suffisamment en compte ses intérêts. Dès que la détente fut possible, à partir de la fin des années 1960, Bonn lança la politique à l'Est, l'Ostpolitik, en direction de Moscou, sans cependant rien abandonner par ailleurs. En particulier, Bonn développa une présence économique mondiale dans et par le libéralisme, sans se limiter à l'espace économique européen. Avec une suite, la stratégie de mondialisation maîtrisée, pratiquée par les grandes firmes allemandes depuis les années 1990. Cette stratégie consistait en fait à délocaliser le bas de gamme largement vers l'Europe de l'Est et à garder en Allemagne le haut de gamme et la recherche-développement, le cœur du cœur. À la fin du XXIe siècle, le résultat était clair. L'Allemagne était, le résultat était clair, l'Allemagne était réunifiée, sa puissance économique se développait au niveau mondial et elle exerçait un évident leadership en Europe et un rôle clé au sein du monde atlantique. La réconciliation, dans la prudence et la modération, des deux grandes tendances évidentes depuis le XIXe siècle, eurocentrées ou mondialistes, après un siècle d'errements parfois tragiques, était encore ce qui avait produit les meilleurs résultats. On peut interpréter le national-socialisme comme un antimondialisme virulent et militant. J'insiste sur cet aspect que parfois on perd de vue. Mais cet équilibre, promu et symbolisé par le chancelier Kohl, a été perdu de vue par ses successeurs, en grande partie. Schröder et surtout Angela Merkel. Celle-ci est passée du multilatéralisme au mondialisme, je dirais dans le sens des réunions de Davos, pour m'exprimer en deux mots, mondialisme accompagné par une considérable abstinence géopolitique que son prédécesseur Schröder n'avait pas pratiquée. La puissance économique et la diffusion des normes juridiques de l'état de droit devant assurer la sécurité et la prospérité de l'Europe et d'une Allemagne ouverte sur le monde. Le sommet et l'échec de cette politique furent résumés par la crise des réfugiés en 2015. Cependant, la très vive réaction de l'opinion allemande à cette crise, il ne faut pas sous-estimer, j'en conjure, ainsi plus généralement que les effets à long terme de la crise financière de 2008, la montée de la Chine, la résurgence de la Russie, les hésitations américaines, le Brexit, les nouveaux défis énergétiques et industriels, tout cela rebat les cartes. Et à Berlin, on essaie de faire le point avant même le départ de Mme Merkel. Bien entendu, les points de vue divergent dans une cacophonie renforcée encore par la division des partis dans un paysage politique en pleine recomposition et peu prévisible. Mais une chose me paraît sûre, on ne reviendra pas aux illusions ou en tout cas aux orientations des années 1990-2015. Voyons d'abord les incertitudes de politique intérieure. Elles sont d'abord, je dirais, mécaniques. La République fédérale vivait sur trois partis, dont deux principaux, et le troisième, les libéraux, faisant la pointe des majorités dans un sens ou dans l'autre. Il y a maintenant sept partis dont les pourcentages de vote tendent à, non pas s'égaliser, mais enfin tendent quand même à se rapprocher. Étant donné le système électoral et la constitution allemande, le résultat est extrêmement difficile à prévoir jusqu'au soir de l'élection, et même jusqu'à la formation du gouvernement issu des élections, pour être tout à fait précis. L'économie sociale de marché et l'ordolibéralisme que j'évoquais sont restés le sujet de discours, mais ils n'inspirent plus vraiment les programmes et ne suscitent plus vraiment un consensus. Je note trois tendances socio-économiques, l'immobilisme, un socialisme nettement plus dur, une pratique néolibérale qui s'étend, plus qu'on ne le remarque ici, dans différents secteurs de la société allemande, de l'université par exemple. Bon. Ces divergences clivantes compliquent l'équation politique. En effet, sur le plan intérieur, les incertitudes se multiplient. La SPD, on le voit avec le dernier congrès, va davantage vers la gauche, elle retourne plus à gauche. La majorité des militants souhaitent mettre un terme à la coalition avec la CDU. Et la nouvelle direction élue fin novembre souhaite, je vais y revenir plus précisément, soit modifier le pacte de la coalition avec la CDU, soit même mettre un terme à cette coalition. Ce qui rendrait donc imaginable une éventuelle coalition de gauche avec le parti dit Linke, qui est issu à la suite de transformations sur lesquelles je ne m'étends pas, fondamentalement de l'ancien parti communiste de RDA, n'est-ce pas ? Cette éventuelle coalition avec le parti de gauche et la SPD était encore impensable récemment et changerait beaucoup de choses, bien sûr. En même temps, les Verts sont de plus en plus incontournables, en particulier à cause de leurs très bons résultats aux élections des Länder et donc de leur présence importante au Bundesrat, qu'on oublie toujours. Mais toute loi importante, il ne suffit pas qu'elle soit votée au Bundestag, il faut qu'elle soit votée au Bundesrat, qui n'a pas forcément la même majorité. Donc tout ça est à suivre de près. Cela rend théoriquement envisageable soit une coalition SPD, Linke, à gauche, Linke, bon, vert, soit plus probablement en ce moment, mais tout ça est très volatile, une coalition CDU, vert, éventuellement avec les libéraux, ce qu'on avait essayé lors des dernières élections, mais qui n'avait pas marché. Alors, beaucoup pensent à ces différentes coalitions, où les Verts figurent toujours, n'est-ce pas, je vous rappelle, mais qui pourraient avoir des conséquences nous concernant, comme pour notre politique énergétique, ou en cas de reprise de la contestation, je dirais, fondamentale de la dissuasion nucléaire. Nucléaire, c'est un point sur lequel je reviendrai. Cependant, les Verts restent profondément divisés. Si leur direction nationale admet désormais les nécessités de l'économie et se rend ainsi capable de gouverner, Regierungsfähig, leur groupe au sein des Länder reste parfois très idéologisé. À preuve, ce qui se passe en ce moment en Bade-Württemberg, où l'industrie automobile supprime des emplois par dizaines de milliers depuis l'automne, devant l'indifférence proclamée des ministres verts du Land. Il est donc très difficile de faire des pronostics sur le rôle futur des Verts, étant donné leur dispersion interne. Mais évidemment, ce sont les succès électoraux de l'AfD, Alternative für Deutschland, qui sont le facteur le plus nouveau et qui mettent la CDU dans une situation de plus en plus difficile. Face à cette situation, parce que l'électorat a tendance à dériver de la CDU vers l'AfD, c'est pas bon. Face à cette situation, certains cas de la CDU et nombre de ses électeurs se montrent de plus en plus en désaccord avec la ligne, je dirais, centre-gauche de la chancelière. De rares élus de CDU, je dis rares, préconise même un rapprochement avec l'AfD, parti complexe avec une aile moins dure que la direction actuelle, dit-on, et donc susceptible d'évolution, pensent certains. Même s'il ne faut pas se faire d'illusions, le parti apparaît uni, quelles que soient les divergences tactiques, derrière une vision révisionniste de l'histoire allemande contemporaine qui rejette en particulier la thèse de la responsabilité unique de l'Allemagne en 1939. Et c'est une position qui remet en cause le contrat social allemand ou politico-social allemand actuel. Il suffit d'ailleurs de regarder des émissions du Bundesnetz, du Bundestag, pour apprécier le type de discours qui est tenu, qui est effrayant, je veux dire. Je souligne quand même que ce rejet de la responsabilité unique de l'Allemagne en 1939 va bien au-delà des électeurs de l'AfD. Quand vous creusez un peu, que vous connaissez les gens, que vous parlez avec eux un peu comme ça, vous découvrez que c'est beaucoup plus répandu que le simple électorat AfD. Pour le moment, les voix qui appellent à collaborer avec l'AfD restent isolées. Mais si la récession qui commence à se manifester en RFA, plus de 5% de recul de la production industrielle en un an, si cette récession, enfin ces dangers, disons, devaient perdurer, aggravés par les restructurations industrielles, tandis que les taux d'intérêt négatifs érodaient les revenus et l'épargne des classes moyennes, cela conduirait sans doute à des gains électoraux pour l'AfD. Et si celle-ci évoluait de façon plus présentable, cela pourrait rendre cette option d'une alliance des droites actuellement exclue, je dis bien actuellement exclue, plus actuelle. Or, c'est ce que propose formellement la nouvelle direction du parti, élue fin novembre, au cours d'un congrès, avec un député au Landtag de Saxe, Tino Chrupalla, dont, à mon avis, vous entendrez parler. Notons d'autre part que l'AfD disposerait, le cas échéant, du réservoir d'expertise nécessaire pour participer au pouvoir. J'insiste, parce qu'on a tendance à la présenter comme un parti marginal. C'est pas seulement un parti protestataire. Elle comporte nombre d'économistes. Elle a été fondée par des économistes, d'ailleurs, au départ, ainsi que nombre de juristes. Elle n'aurait aucun mal à peupler les ministères de secrétaires d'État parlementaires, n'est-ce pas, ou même fonctionnaires prenant en main l'administration d'une coalition éventuelle. Ce ne serait pas un obstacle en soi. Bon. D'autre part, les récentes élections en Thuringe, fin octobre, ont encore modifié la situation. Le Land était gouverné depuis 2014 par une coalition SPD-Linke Vert après une quasi-hégémonie de la CDU depuis la réunification. Cette coalition servait de laboratoire local pour une éventuelle coalition nationale entre la SPD et la gauche et les Verts. Or, les élections dernières ont mis Linke en tête avec 29 sièges, l'AfD en second avec 22 sièges, puis la CDU avec 21 sièges, suivi de la SPD 8 sièges, des Verts 5 et des Libéraux 5. La coalition précédente n'a plus de majorité. L'actuel ministre-président de Thuringe, Ramelow, qui fait partie du gouvernement du parti de gauche, Linke, qui est en fait un Allemand de l'Ouest catholique, venu faire de la politique en Thuringe hyper-protestante. Enfin, ça, c'est la complexité de l'Allemagne actuelle, si vous voulez. Bon, Ramelow pourrait constituer un gouvernement minoritaire, aux dernières nouvelles, qui serait toléré par la CDU. En effet, celle-ci, en Thuringe, a beaucoup évolué, et même si elle exclut une coalition avec Linke, elle a considérablement réduit son opposition de principe à ce parti. Je rappelle que Linke est quand même le descendant linéaire de l'ancien SED, et il faut avoir participé à des réunions, à des congrès en Allemagne. On voit la détestation que ce parti inspire encore aujourd'hui en Allemagne de l'Ouest, enfin, son histoire et ses successeurs. Ainsi, Linke, après avoir brisé le tabou que lui opposait la SPD, est en train d'éroder tout doucement celui de la CDU. C'était inimaginable il y a encore quelques mois, et là, ça complique l'équation. Ceci s'explique en particulier par l'histoire très complexe des mouvements d'opposition sous la RDA, par l'histoire particulière de la Thuringe, mais cela correspond aussi à la situation tout à fait nouvelle et peu difficile où se trouve la RFA actuellement. On comprend bien devant ce bouillonnement et avec la multiplication des partis qu'il est très difficile de prédire le résultat des prochaines élections fédérales dans 2 ans au plus tard. Voire avant. On sent néanmoins que des forces sont à l'œuvre pour réintégrer dans le jeu l'extrême-gauche. Quant à l'extrême-droite, on n'en est pas là, mais on ne peut plus absolument l'exclure pour l'avenir. En tout cas, des coalitions majoritaires et davantage profilées que la grande coalition actuelle redeviennent probables. On sortirait du consensus centriste relativement mou de l'ère Merkel. En revanche, il est probable que les Verts seraient présents dans la plupart des majorités possibles. Le retour à une ligne de partage droite-gauche tranchée diminuerait peut-être les tendances à la radicalisation aux deux extrêmes que l'on a toujours constaté en République fédérale dans les périodes de grandes coalitions CDU, SCSU, SPD. Mais on ne peut pas exclure que l'une ou l'autre des alliances envisageables, CDU, Verts, Libéraux ou SPD, Linke et Verts, ne soit quand même beaucoup plus idéologiquement marqué que le consensus centriste actuel. Le système électoral allemand fait qu'il est difficile d'aller plus loin dans prévision. Je dirais simplement pour la CDU, Mme Kramp-Karrenbauer, qui est sa présidente, qui a connu un passage à vide récemment, a été, si vous me permettez, requinquée par le dernier congrès de la CDU. S'il y avait des élections à court terme, elle serait certainement la candidate à la chancellerie pour la CDU-CSU. Bon. Chez les socialistes, on a connu ces derniers jours un bouleversement. Le ministre des Finances actuel, Olaf Scholz, s'affirmait dans une SPD fort dépourvue de personnalité nationale. Il vient d'imposer à la CDU un accord généreux sur la retraite minimum, ce qui aurait dû améliorer son standing à la gauche de la SPD. En même temps, il vient de proposer de relancer l'union bancaire au sein de la zone euro, bloquée par Berlin depuis des années, avec un projet complexe de résolution des faillites, visant en fait à limiter les conséquences d'une faillite bancaire dans un pays membre sur l'ensemble du système bancaire européen. Enfin, il met le doigt vraiment sur un problème pour l'ensemble de l'Europe, il se situe à ce niveau-là. Et Olaf Scholz me paraissait devenir cancérisable, si vous me permettez cette expression, et patatras. Les militants viennent de choisir, par un vote direct des militants, une autre équipe pour diriger le parti. La nouvelle équipe se situe à l'opposé et aurait voulu mettre un terme rapide à la grande coalition. Cependant, le congrès de la SPD, qui s'est tenu samedi et hier dimanche, est resté sur une ligne plus prudente. On ne quittera pas la coalition tout de suite, mais on exigera de la CDU toute une série de concessions sur le fameux contrat de coalition conclu en 2017. Et les demandes sont nombreuses. En fait, elles reviennent à abolir toutes les réformes de l'ère Schröder, n'est-ce pas, à augmenter de 30% l'équivalent allemand du SMIC et à supprimer le Schwarzenegger, c'est-à-dire l'obligation constitutionnelle d'un équilibre budgétaire imposé par notre confrère associé, M. Schäuble. Ça changerait beaucoup de choses si cela devait passer. Je ne pense pas que la CDU l'accepte. On peut donc avoir soit des compromis mous encore pendant 2 ans, c'est-à-dire manque de réactivité considérable du gouvernement de Berlin, soit même des élections rapides, n'est-ce pas, enfin proches, n'est-ce pas du tout exclu. On verra. Quant aux orientations à long terme possibles, la gamme s'ouvre bien plus largement qu'il y a quelques années entre des modèles libéraux affirmés, y compris par certains membres du Parti socialiste, ou socialiste beaucoup plus dur, c'est l'actuelle direction du Parti socialiste, avec des pourcentages d'écologie difficiles à prévoir aujourd'hui. Mais dans certaines hypothèses, l'Allemagne que nous avons épousée en 1962 avec le traité de Maastricht, qui était bien élevé et richement doté, pourrait nous surprendre, n'est-ce pas ? Les problèmes structurels sont considérables. Ils vont encadrer les recompositions possibles et freiner quand même les dispersions. Ils vont pousser dans la tradition politique allemande à la recherche d'un minimum de consensus, quelle que soit la coalition au pouvoir. C'est important. La célébration de 1989 a fait prendre conscience du fait, c'est le premier problème structurel, a fait comprendre conscience du fait qu'il existe toujours une frontière invisible entre les deux Allemagnes. Certes, les énormes efforts consentis depuis la réunification ont fait que le degré d'équipement, le niveau technique, le niveau de chômage et de salaire entre les deux parties de l'Allemagne se sont considérablement rapprochés. Il y a, à mon avis, moins de différences régionales entre l'ex-RDA et l'ex-RFA, si vous voulez, qu'en France, entre telle ou telle région. Mais tous les observateurs constatent qu'il existe toujours une grave barrière psychologique, un sentiment de discrimination chez beaucoup d'Allemands de l'Est. On peut tenter de l'expliquer. Par exemple, il y a très peu de responsables de haut niveau, originaires des Länder de l'Est, dans les administrations et les organisations publiques, comme les universités. Il n'y a pas un seul président d'université originaire d'Allemagne de l'Est. Dans ces domaines, ce qui a dominé après 1989, ce fut l'épuration, pas l'amalgame. Plus même qu'en France, à certaines périodes de nos luttes civiles, ou qu'en Allemagne de l'Ouest, après 1945, disons-le très franchement. D'autre part, il faut admettre que les Allemands de l'Est ont vécu de 1933 à 1989 dans des systèmes idéologiquement différents, mais en fait très proches par leurs pratiques sociales et par l'encadrement total des individus. Là, le vrai changement, ce fut 1989 pour ces Allemands de l'Est, pas 1945. Et après 56 ans, il n'est pas étonnant que le changement n'ait pas été facile pour tout le monde. Les autres problèmes structurels sont ceux de toute l'Europe, population vieillissante, paiement de la couverture sociale, etc. Mais ils sont parfois particulièrement aigus dans ce pays qui est resté un pays profondément industriel, dépendant de ses exportations, en particulier de véhicules et de machines. Or, on passe à un nouveau modèle technique, industriel, énergétique. Quand 25% des exportations industrielles sont représentées par l'industrie automobile, on peut comprendre cette obsession. La défense du Standort Deutschland, le lieu de production Allemagne, sera prioritaire et formera la base de tout consensus. Même les Verts, au niveau national, peut-être pas au niveau local, mais au niveau national, l'admettent désormais. La défense de l'outil de production et surtout du site de production, enfin, le site de production allemand dirigera tout, décidera de tout. Étroitement liée à la précédente, la question du nouveau modèle commercial. Alors que la politique des délocalisations maîtrisées des années 90 montre ses limites, car même les parties nobles des chaînes de production se trouvent, et les centres de recherche se trouvent de plus en plus fortement concurrencés, et alors que les guerres tarifaires en cours menacent les exportations allemandes. Étroitement liée également la question du nouveau modèle énergétique, celui adopté par Mme Merkel en 2014 étant loin d'avoir réussi. L'énergie est chère, l'électricité coûte deux fois plus cher aux ménages allemands qu'aux ménages français. Il y a beaucoup de centrales au lignite, il suffit de prendre le train entre Aix-la-Chapelle et Cologne pour comprendre ce que je veux dire. L'Allemagne pollue plus maintenant qu'en 2014, et on constate un recul de 80% cette année, je dis bien 80% des mises en service d'éoliennes. Pour des raisons que je pourrais expliquer, je n'ai pas le temps. Là aussi, les Verts allemands évoluent. Ils sont toujours hostiles aux énergies fossiles, mais ils admettent qu'on ne peut pas se passer d'énergie. Les incertitudes techniques ne permettront pas de parvenir rapidement à un nouveau consensus, mais la décroissance idéologique ne sera pas, à mon avis, une option nationale. Consensus également sur la question des infrastructures anciennes à renouveler ou nouvelles à développer, comme la 5G, etc. Les budgets augmentent de façon remarquable. En cas de coalition SPD-Linke Vert, ils augmenteraient encore plus d'après les programmes affichés par ces partis. Notons ici que c'est le seul levier permettant d'espérer une application plus souple des règles de convergence pour l'ensemble de l'Europe. Bon. Dernier point, il existe un consensus discret, évidemment, mais un consensus sur la reprise en main de l'immigration. La situation n'est plus du tout la même qu'en 2015, loin de là. Bon. Passons à la politique extérieure, incertitude et nouvelles tendances. En effet, ces problèmes structurels retentissent aussi sur la politique extérieure. Néanmoins, on peut entrevoir là aussi les linéaments d'un nouveau consensus en gestation, même si celui-ci ne peut être que lent et difficile. Bon, en Allemagne, c'est toujours comme ça, c'est pas grave. Une fois que le consensus est atteint, on s'y tient. Bien sûr, il y a débat. Plusieurs options sont envisagées, que je résumerai en deux grandes tendances. Première tendance, un repli sur l'Europe, ou plus exactement sur l'Eurasie, avec ses sources d'énergie et ses marchés essentiels pour l'Allemagne. C'est certainement une tentation qui, chez certains, peut aller très loin, comme le montre un article d'un historien et essayiste connu, Gregor Schulgen, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 11 août dernier. L'OTAN et l'Union européenne ne sont plus nécessaires. Un titre. Bon. Vous imaginez, l'OTAN et l'Union européenne ne sont plus nécessaires. Bon. Cette volonté de reprendre sa liberté ne s'exprime pas souvent publiquement, même si elle séduit en fait plus de monde qu'on ne le penserait. Mais la tendance au repli sur l'Eurasie est plus fréquente et apparaît par exemple à certains moments chez le ministre des Affaires étrangères actuel, Heiko Maas. Les milieux de l'économie, poussés par le mercantilisme et les milieux antilibéraux de tous bords, pourraient éventuellement s'y retrouver. Mais dans ce schéma, la RFA apparaîtrait comme le leader quasi hégémonique de l'Union européenne. Or, les Allemands sont très conscients de la crainte qu'ils suscitent souvent chez leurs voisins. Ils en sont très conscients. Un livre à succès, tout à fait récent, intitulé « Qui a peur de l'Allemagne ?» par un historien inconnu, un collègue que j'apprécie beaucoup, Andreas Röder, résume très bien cette problématique. Il faut donc un partenaire au moins pour ne pas apparaître dominant. Ça ne peut plus être le Royaume-Uni. Ça ne peut être que la France. Mais notre état économique et financier, que je qualifierais de difficile par politesse, couplé à nos prétentions en matière internationale, pose à Berlin une série de problèmes considérables. Ce qui paraît se dégager plutôt en ce moment, c'est la recherche d'une série de sous-équilibres permettant de concilier les différentes orientations et directions de la politique extérieure allemande, tout en facilitant le rétablissement d'un minimum de consensus à l'intérieur. C'est sans doute ce qu'encourage, ce que j'appellerais, comme monsieur le président de la République, l'état profond qui existe pour la politique extérieure en Allemagne, les très grandes fondations, l'Auswärtiges Amt, qui ne devrait même pas s'appeler comme ça, il a gardé son nom de 1867. C'est anticonstitutionnel, en fait, mais enfin, je ne veux pas lui demander de changer son nom, mais on verra peut-être. Mais il est dépositaire de la tradition bismarckienne, qui est toujours vivante. J'ai eu l'honneur de participer au centenaire Bismarck en 2015, avec un magnifique colloque, très grande cérémonie, au cours de laquelle notre confrère associé Wolfgang Schäuble a prononcé un discours qui a tiré des larmes à tout le monde, parce que c'était superbe. J'ajouterai également à ces détenteurs de la tradition les services secrets qui jouent leur rôle, évidemment, en Allemagne. Tout ça est largement autonome par rapport aux majorités au pouvoir. Quand vous avez un doute, allez trouver des diplomates, demandez-leur comment ça va se passer, ils vous le diront, et c'est eux en général qui auront raison. Avec la Russie, c'est très net. La RFA soutient l'Ukraine et les pays scandinaves qui se sentent menacés par Moscou, mais parallèlement ne renonce pas, malgré la fureur de Washington, à la construction du nouveau gazoduc Nord Stream numéro 2, dont les pays d'Europe orientale et l'Ukraine souhaiteraient l'arrêt, car il permettrait à la Russie d'y contourner. Or, ce projet est essentiel pour la RFA, englué dans sa difficile sortie du nucléaire. Avec la Chine, le gouvernement et l'industrie veillent jalousement sur les exportations vers ce pays, mais en même temps, ils préparent une législation pour pouvoir éviter la prise de contrôle par les sociétés chinoises de sociétés de haute technologie. Ils ont été traumatisés par la prise de contrôle par la Chine de fabricants de machines à commande numérique KUKA, de très haut niveau. On n'a pas vu venir. Tandis que la chancelière et le Bundestag sont actuellement à couteau tiré sur la question de l'acceptation ou pas de Huawei pour la 5G. Vous connaissez le problème. Bundestag est contre, Mme Merkel est pour. À mon avis, Bundestag finira par gagner, mais enfin, je peux me tromper. En ce qui concerne les États-Unis, la politique du président Trump fait l'objet de vigoureuses critiques. Cependant, la politique allemande envers les États-Unis est sans doute plus complexe qu'on ne le dit. On en a eu la preuve tout récemment avec la sèche réplique de la chancelière au président Macron. Ceci a déclaré, vous le savez, que l'Europe courait de grands risques et devait prendre son destin en main, car, je cite, « l'OTAN est en état de mort cérébrale ». Angela Merkel a immédiatement répliqué que la relation transatlantique n'était pas négociable pour l'Allemagne, même si l'Europe devait certainement prendre davantage en main son destin. Mais le ministre des Affaires étrangères, M. Maas, a fait des propositions. Injecter dans l'OTAN des cellules fraîches. Vous voyez le rapport, n'est-ce pas, avec la mort cérébrale. Hein, bon. Et il a proposé qu'une commission des sages définisse de nouvelles orientations politiques et militaires pour l'OTAN. Vous allez me dire, il propose une parlotte. Ça, c'est possible, mais de toute façon, je conseillerais d'accepter cette proposition, car on n'obtiendra pas mieux, je vous le dis tout de suite, de Berlin en la matière. Avec la Grande-Bretagne, Mme Merkel avait été, à propos du Brexit, sur la même position dure que Paris ou la Commission de Bruxelles, où l'influence allemande est d'ailleurs prédominante, vous le savez. Mais à partir du printemps 2019, la RFA, sans doute sous la pression de ses industriels, a cherché plutôt des accommodements pour éviter un Brexit dur et a laissé Paris se mettre en avant dans l'affirmation d'une position peu accommodante envers Londres. Avec l'Union européenne, même rééquilibrage. Certes, on y est très influent, mais on prend le plus grand soin, beaucoup plus que dans les années 1990-2010, en gros, le plus grand soin pour associer le plus possible tous les membres, et pas seulement la France, d'où les limites du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, conclu en janvier dernier. Et conclu pour renouveler le traité de l'Élysée de 63, mais avec certaines limites pour ne pas paraître faire bande à part. Bon. Notons deux domaines à suivre. Le budget européen 2021-2027 et la question des normes de toute nature. Là, les Allemands sont très présents à Bruxelles. Leur budget va, vous le savez, devoir être renégocié, avec une réduction de la politique agricole commune, son budget, avec des normes augmentant encore les difficultés de l'industrie nucléaire française, etc., etc. Ça, c'est à suivre avec la plus grande attention. D'autre part, il faut constater une évolution essentielle, qui paraît faire consensus, même si on ne l'évoque guère publiquement. L'enthousiasme fédéral des années 90, à mon avis, a disparu. Le rapport Lammers-Schäuble, toujours Wolfgang Schäuble, notre confrère, de 1994, qui allait dans un sens assez fédéral, ne serait plus concevable aujourd'hui. On constate que les États n'ont pas disparu. La coopération européenne dans les domaines régaliens sera donc une coopération entre États, même si Berlin souhaite que davantage de décisions en matière financière, de politique extérieure en particulier, soient prises à la majorité et non plus à l'unanimité. Cette vision, pour l'essentiel interétatique, rejoint les vues françaises constantes. Mais le gaullisme est-il, à nos yeux, un article d'exportation ? C'est une intéressante question. Certes, l'entrée probable des Verts au gouvernement pourra entraîner une nouvelle appétence d'intégration européenne, car les Verts y sont favorables. Mais nos intérêts agricoles, énergétiques et militaires n'y trouveraient pas forcément toujours leur compte. J'ai parlé du militaire. Il y a une limite à l'engagement, disons, de la RFA, c'est le peu d'appétence pour les expéditions militaires. Bon, il y a eu une période autour de la crise yougoslave de 1994 jusqu'à 2005-2007 à peu près, où les Allemands étaient davantage prêts à s'engager. Maintenant, ils sont très en arrière de la main. Vous le savez, on l'a vu depuis l'affaire libyenne en 2011, tandis que la mauvaise gestion du Bundeswehr, enfin le ministère de la Défense, par Mme von der Leyen, a fortement réduit les capacités opérationnelles de la Bundeswehr, parce que le matériel est en panne, pas d'un seul sous-marin ne prend la mer, et ainsi de suite. Cependant, les choses pourraient évoluer. Dans un discours programme prononcé le 7 novembre à l'université de la Bundeswehr de Munich, la ministre de la Défense, Mme Karen Bauer, a appelé à un renforcement de l'engagement militaire de la RFA avec tout le spectre des moyens militaires nécessaires. Il y a une restructuration du processus de décision allemand dans ce domaine avec la création d'un Conseil fédéral de sécurité réunissant tous les ministères concernés et y compris aussi une accélération des procédures au Bundestag pour approuver des engagements extérieurs. Ceux qui suivent de près, comme les diplomates qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir, les questions à Berlin, comprennent évidemment l'importance de ces questions apparemment techniques. Certes, le ministre des Finances se fait tirer l'oreille pour rejoindre le fameux 2% du budget demandé par l'OTAN, et la Bundeswehr est actuellement en crise. Néanmoins, la fréquentation des spécialistes de défense, des institutions stratégiques, y compris leurs universités de défense, des milieux militaires, des officiers français détachés dans les états-majors des unités multinationales systématiquement organisées par Berlin, font apparaître une claire conception stratégique de la défense de l'ensemble européen, de la Baltique à la Méditerranée. Mais il faut réconcilier les deux axes stratégiques pour l'Europe, vers l'Est, qui évidemment intéresse les Allemands au premier chef, et vers le Sud, qui nous concerne très directement. À nous de contribuer à cette réconciliation, il me semble que depuis peu, la conjoncture est plus favorable. Pour les armements, pour les opérations classiques, la collaboration franco-allemande se développe. Le traité d'Aix-la-Chapelle comporte même un article prévoyant une assistance militaire en cas d'attaque contre le territoire du partenaire. Cependant, la proposition capitale faite par M. le Président de la République lors de sa campagne de 2017, celle de créer un état-major européen opérationnel, ce qui serait décisif pour la politique de sécurité et de défense européenne, parce que ça entraînerait toute une série de conséquences fondamentales, ça a été rejeté tout de suite par Berlin. Il faut bien comprendre que le nucléaire français ne sera pas un atout, mais un embarras pour notre politique envers Berlin, même si régulièrement la question d'une garantie nucléaire française à la RFA est posée par les publicistes. Bon, je ne peux pas développer ce point qui est assez technique, mais si on suit les choses de près, je pense qu'on arrive à la conclusion que le mieux pour nous, Français, est de parler le moins possible de notre nucléaire si on ne veut pas susciter des réactions négatives ou gênantes, disons, à Berlin. Principal problème, c'est le juridisme et le moralisme de la politique extérieure allemande. Outre ces différents freins, il existe un problème crucial. La RFA est un état de droit et même un état des juges, beaucoup plus profondément que la France de la Ve République. L'incident récent du refus par le Bundestag d'autoriser la vente par la Grande-Bretagne d'avions Tornado à l'Arabie Saoudite, parce qu'ils comprennent des éléments fabriqués en Allemagne, montre que les coopérations en matière d'armement ne sont pas sans problème. Ça vaut également pour les armements franco-allemands, bien sûr. La France se trouve là devant une contradiction fondamentale. Sa politique d'armement et son modèle militaire dit expéditionnaire bénéficient d'une coopération privilégiée avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais sa conception de l'Europe et sa politique extérieure en général supposent une étroite collaboration avec Berlin. Il est impossible de prévoir aujourd'hui comment cette contradiction sera résolue. Néanmoins, il se dégage de ces différents constats et malgré les ambiguïtés, controverses et hésitations, une tendance d'ensemble. La République fédérale veut jouer un rôle international plus actif dans un cadre européen qu'elle compte bien impulser et dans une alliance atlantique où elle veut se faire entendre. Mais depuis quelques mois, les couacs entre Paris et Berlin se sont multipliés. On a vu celui qui concerne l'OTAN en état de mort cérébrale. Rappelons que la décision d'Emmanuel Macron de bloquer l'accession à l'Union européenne de l'Albanie et de la Macédoine du Nord a elle aussi provoqué une vive et immédiate réaction de Berlin. On pourrait en dire autant de la main tendue depuis quelques mois par Paris à la Russie. En fait, ce sont pratiquement toutes les initiatives françaises depuis 2017 en matière financière ou stratégique qui ont été rejetées net par Berlin ou du moins fortement affaiblies. Tout récemment, M. Maas vient de souligner vigoureusement deux points de désaccord, les Balkans et les subventions agricoles de la PAC. D'autre part, le traité d'Aix-la-Chapelle de janvier dernier a été assez mal reçu en France, de façon d'ailleurs déraisonnable à mes yeux et par manque de compréhension des réalités. Ceci dit, il faut percevoir les messages et les signaux faibles. Prenons l'exemple de la tribune très européenne publiée par le président de la République le 4 mars dernier. Elle n'a pas été bien reçue en RFA. Madame Kramp-Karrenbauer, ministre des Finances Olaf Scholz en particulier, ont réagi devant ce discours très européen, suggérant que la France partage son siège au Conseil de sécurité de l'ONU ou y renonce au profit de l'Union européenne. Il faut bien voir qu'il s'agit, puisque pour moi il n'est pas question, il n'y a pas d'État européen, donc tout ça sont des supputations, mais il s'agit très simplement de mettre les Français en face de leurs contradictions. Vous voulez une union financière et bancaire, vous affichez la volonté d'une politique extérieure européenne ambitieuse, mais vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre statut de vainqueur de 1945. C'est ça que ça veut dire très exactement. L'essentiel est qu'après avoir pensé de 1990 à 2015 environ, pouvoir relancer l'Europe en calmant les inquiétudes latentes grâce à une collaboration franco-allemande accentuée, Berlin a désormais une vision beaucoup plus multilatérale de l'Union européenne. En même temps, les principaux acteurs à Berlin n'hésitent plus à affirmer la nécessité d'une politique européenne autonome et agissante dans le monde, avec une vigueur que l'on sous-estime ici. L'abstinence géopolitique est en train de prendre fin, ce qui ne veut pas dire que l'on entérine toutes nos positions. Prends l'exemple de l'Afrique. L'Allemagne qui estime que notre politique interventionniste en Afrique ne réussit pas et qui s'inquiète de la pénétration chinoise ne se contente plus de nous critiquer. Elle y est beaucoup plus active, comme en témoigne un récent sommet germano-africain, ainsi que la multiplication des programmes d'investissement, l'argent qui vient avec, et des programmes de recherche de toute nature sur ce continent. Mes collègues et moi constatons depuis 2015, même pas depuis 2 ans en fait, une multiplication des programmes de recherche allemands sur l'Afrique, utilisant entre autres tous les moyens scientifiques français possibles. Retenons que l'on perçoit dans ces réflexions une claire vision géopolitique, celle d'une Europe qui s'affirme autrement que dans le cadre de l'atlantisme ou du mondialisme, ou de la mondialisation. Et l'Allemagne comprend que notre engagement en Afrique n'est pas un avatar de la France-Afrique, mais une nécessité économique et de sécurité pour l'ensemble de l'Europe. Ainsi donc, grâce à cette nouvelle tendance, une réelle coopération pourrait prendre forme. Et j'en viens pour conclure à l'intérêt français. Il s'agit pour la RFA d'utiliser tous ses atouts pour le retour à une politique certes toujours prudente mais plus équilibrée, centrée évidemment sur Berlin mais avec une perception affinée des intérêts allemands à long terme en Europe et dans le monde, perception incluant toujours la volonté de coopérer avec ses partenaires mais pas à n'importe quelles conditions. Nous devons le comprendre et en tenir compte car beaucoup d'aspects de ce programme en cours de formulation sont raisonnables et en le comprenant mieux, nous serons mieux à même de tenter de le réorienter le cas échéant. En ce qui concerne l'Union européenne, sans rechercher un Big Bang institutionnel pour lequel il n'y aurait pas de majorité ni chez les dirigeants, ni dans les opinions publiques, ni chez les électeurs, deux voix s'ouvrent depuis peu. La République fédérale et les pays du Nord, s'ils restent hostiles à la mutualisation des dettes et de plus en plus méfiants à l'égard de la politique de facilité monétaire de la BCE, commencent à admettre que l'absence de déficit budgétaire ne peut être un dogme absolu quand il s'agit de financer des investissements productifs indispensables. Même si l'assouplissement des critères de convergence de Maastricht est loin d'être acquise, je rappelle que la RFA a inscrit dans sa loi fondamentale le zéro déficit budgétaire absolu, en dehors même des critères de Maastricht. Mais elle pourrait garder cette disposition constitutionnelle, le cas échéant, tout en acceptant pour l'ensemble européen certaines formes d'assouplissement, disons. Mais il faut comprendre que les Allemands, éclairés par l'histoire de la Ve République et de ses arrière-pensées qu'ils connaissent fort bien, très bien, croyez-moi, savent très bien décrypter notre cortex politico-militaire, toujours le cerveau, n'est-ce pas bon ? Ils comprennent ainsi que s'il est vrai que l'encéphalogramme de l'OTAN n'est pas brillant, proclamer à Paris sa mort cérébrale signifie en fait que la France, forte de son savoir-faire militaire, de sa panoplie, y compris en matière nucléaire, compte bien prendre la tête de la personnalité européenne de sécurité et de défense. Hors de ça, il ne peut être question pour Berlin. Ça, je le dis très clairement à mes yeux. Enfin, bon, pas question. De façon générale, des propositions concrètes, reposant sur une analyse concrète des situations concrètes, je me surprends à citer Lénine ou presque, enfin bon, seront mieux acceptées à Berlin que de grands projets européens généraux, accueillis en général avec scepticisme, voire avec méfiance. D'autre part, Berlin a fait des propositions de discussion pour l'OTAN et aussi les Balkans, moins claironnantes peut-être, mais qui ouvrent une voie de discussion pour améliorer les politiques de l'Union. Il me semble pour conclure que l'orientation allemande qui commence à se dégager, ou du moins son point moyen, est encore la plus favorable possible pour la France. L'Allemagne, malgré le glissement des plaques tectoniques, engendré par le Brexit et l'évolution de la politique américaine, s'affirme mais reste occidentale et ne retourne pas à une conception purement continentale qui l'amènerait à devenir de plus en plus liée à la Russie et à la Chine. Seulement, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas là d'une certitude absolue. D'autres scénarios sont aussi possibles, même si je n'y crois guère. Mais en tout cas, c'est tout notre intérêt et cela devrait être notre ligne générale d'encourager le bon scénario, vaille que j'ai essayé de dégager. Je vous remercie.